l'angoisse qui nous pousse. Et ou alors une culpabilité, peut-être, on est là, on se demande qu'est-ce qu'on fout sur la terre, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre ? On comprend rien. Alors il y en a qui disent qu'on a été punis, donc ils se sentent coupables. Et tout ça, c'est les Européens, n'est-ce pas ? À tracasser, alors on fuit, on cherche une issue. Voilà. On cherche une issue. Où y a-t-il une issue ? Entre parenthèses, il y en a qui s'imaginent qu'au théâtre, il y a des issues, n'est-ce pas ? Mais c'est le endroit où il n'y a aucune issue au théâtre. Parce qu'il est noir, c'est pas des issues, c'est des murs. Qu'il y ait des rideaux, pas assez des murs, il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est le public. Ça, c'est bon comme Thomas, je l'aime de trouver là. La seule issue, c'est le public. Ah, ça, c'est fort. Et Bernard oui. Alors, donc, on fuit. N'est-ce pas, on cherche un interstice, une faille, quelque chose pour se précipiter, pour disparaître, pour trouver la solution, pour trouver l'échappatoire, pour s'en sortir. On est comme des minotaures dans des labyrinthes. On est dans un labyrinthe, voilà, nous sommes dans un labyrinthe. Et alors on cherche, forcément on trouve. C'est pour ça qu'on trouve tout. On trouve tout parce qu'on cherche. Et on cherche pourquoi ? Parce qu'on est nu. On est nu, c'est le moteur, vous comprenez ? C'est profond ça, c'est profond, c'est violent. On souffre beaucoup aussi, c'est vrai, on souffre énormément. Et il y a beaucoup de médecins ici. On a besoin de médecins, sinon on va. Ah oui, les Européens, voyez ça la main. Le temps clair est dans l'ongle. Nous sommes les peuples de l'espoir, ça vous savez. Ça, vous savez que nous sommes les peuples de l'exploit. Parce que nous avons pour objectif de dépasser toujours. Et s'il y a quelqu'un devant, il faut que je dépasse. Moi, en voiture, par exemple, je passe pour quelqu'un devant. Je ne suis pas le seul. C'est un politicien qui a un appareil. Et puis, beaucoup conduisent mal, n'est-ce pas ? Alors, il faut vraiment toujours passer. Pourquoi ? Pour dépasser, pour être devant celui qui est devant. Il faut qu'il y ait encore quelqu'un devant lui pour aller de plus en plus vite. Pour accomplir les destinées, n'est-ce pas ? Une fois, il y en a un qui dit, j'ai gagné une demi-heure ce jour-là. Et un autre qui lui a dit, qu'est-ce que vous avez fait ? Il a dit, qu'est-ce que j'avais fait ? J'en ai rien fait du tout. Mais en hiver, je l'ai tenu contre moi, elle m'a tenu chaud. Et en été, elle m'a tenu froid. Voilà à quoi elle m'a servi. Hein ? Et c'est pas la peine de dire des stupidités. S'il y en a un qui dit, pour trépasser, vous passez, pour trépasser, ça ne veut rien dire, ça. Enfin, excusez-moi, je m'affouille parce que ça me consterne. Ça me consterne que les gens puissent passer de cette façon. Enfin, nous, on fonce pour accomplir. Et on se lance des défis en permanence. Des défis, je ne sais pas, moi, celui qui sort le plus loin, moi, ça me l'avait vu. Voilà, jusque-là. Hein. Je reconnais qu'il court le plus vite possible. Il court très vite, ça, je le vois. Mais on est quand même les premiers, n'oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas ça. Et alors, ça, c'est des défis. Puis alors, le plus grand pain du monde, un kilomètre, ouais. Le plus gros œuf au chocolat, plusieurs tonnes. J'ai essayé le livre Guinness des records. Ça, je vous garantis. Hein. Ah non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas apporté, je vais vous dire pourquoi. Je me suis dit, si jamais il y en a qui veulent que je le lise un peu, on ne va pas s'en sortir. On va passer l'après-midi à lire le livre des Guinness des records, parce que c'est extraordinaire. Hein. On vous donne le plus gros, le plus vert, le plus grand. Paradoxalement, il n'y a jamais le plus méchant. Vous voyez ? Il n'y a pas de méchant dans les Européens, puisqu'il n'y a pas le plus méchant de tous. Vous voyez, le plus égoïste. On n'en parle pas. Donc ça n'existe pas. C'est des idées, ça, c'est enfin, voilà, le bâton des records. Les Africains, ils peuvent tous s'accrocher, mais moi, j'ai 7 kilos de spaghettis, par exemple. Ils n'ont même pas les spaghettis. Donc, le bâton des records. Enfin, là, c'est alors ceux qui se mettent à plusieurs. Mais beaucoup, alors, dans une cabine téléphonique. Dans une deux chevaux. À 20, dans une cabine téléphonique, il y a une deux chevaux. C'est comment ils font, vous voyez. Ça frise même l'érotisme interdit, vous voyez. Et alors, surtout depuis quelques temps, on a pris conscience qu'on avait changé nos types d'exploits. Par exemple, si je vous dis Hiroshima, c'est un exploit qui n'a jamais été égalé encore. Jamais. Et, par exemple, les ennemis, ils ont fait le 11 septembre, 3 000 sur 130 000. C'est dérisoire. 3 000 morts, ils en sont qu'à 3 000 morts. Et les autres à 130 000. Voilà un type de record que nous établissons. Et le CO2 dans l'atmosphère, on bat tous les records. On arrive à faire fondre plusieurs mètres de glace de la banquise. Non mais il faut le faire. Il faut prendre conscience de ce qu'on est capable de faire. Et sur le travail. Eh bien, on va aussi dire encore. On a commencé par pouvoir se passer d'un quart du personnel qui fait le travail, hein, un quart de personnel pour aller. Puis il y a les deux quarts, c'est-à-dire la moitié, puis les trois quarts. Bientôt, il y en aura un sur cinq qui pourra faire tout le travail de tous les autres. Ce sera dur pour lui, mais c'est une forme de record. Et pas dans le même temps. Il y en a qui font des records de rentabilité. Alors, on vous annonce, par exemple, 10 000 licenciements et 10 milliards de bénéfices. Il y en a qui disent que c'est contradictoire. Mais non, ce n'est pas contradictoire. C'est parfaitement cohérent. C'est cohérent, quoi. C'est la cohérence des Européens. Et oui, il y a les chartes, c'est comme la philosophie chinoise, c'est pas la philosophie européenne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, c'est les Chinois, ils sont très terre à terre, les Chinois. Nous, on est transcendants. On cherche à s'élever toujours. D'ailleurs, comme ça, je m'agenouille pour l'élever. Par contre, il y en a alors, ceux qui font la rentabilité, ils, quand ils s'agenouillent, eux, ils calculent. Ça leur donne le temps de réflexion pour calculer. Mais il y en a qui ne laissent pas perdre de temps, quoi. Enfin, nous les Européens, les Israéliens. Nous sommes les plus gros animaux de la Terre, parce que les plus gros producteurs de merde. Ça, c'est avéré par les sciences, n'est-ce pas? Le plus gros, c'est nous. Il n'y a pas de doute. Nous sommes, par exemple, les plus gros producteurs d'ordures du monde. Si bien que il arrive qu'on exporte nos ordures, vous savez, tout à fait. C'est les arrangements. Alors, il faut voir les autres, là, dans notre monde, la tête qu'ils font devant nos ordures. On va tirer la langue, pour y faire ça. Effaré de voir une telle richesse. Voilà, c'est des ordures. Et vous avez peut-être entendu parler de la... Ce sont plus que des tas d'ordures, ce sont des œuvres d'art. C'est pas deux œuvres d'art. Sinon, j'en parle pas. La décharge ne manque jamais. Vous avez entendu parler de ça. C'est une décharge où ils ont tassé des tas de bidons. De différents produits. Et alors ces bidons, ça a traversé, les produits ont traversé les bidons, ils se sont mélangés, ça a fait des mélanges extraordinaires, ça a fait des gaz, 300 sortes de gaz qui sont sortis de la Terre. Et si ça sort comme ça du gaz gratuitement, c'est une œuvre d'art. Sinon, ce serait une usine. L'équipe qui était là, sur le terrain, ils voulaient rester chez eux parce qu'ils étaient chez eux. Cette œuvre d'art, c'est leur donner des moulures, des cloques, des démangeaisons, des tas de trucs. Ils voulaient rester quand même chez eux. Ça, c'est l'œuvre d'art. Par exemple, vous savez que au Louvre, on n'accorde que 5 secondes aux gens pour regarder la Joconde. Oui. Alors ils passent comme ça. Sinon, s'il y en a qui restent trop longtemps, ils s'évanouissent d'émotion. Parce que nous sommes très très sensibles. Je développerai ça tout à l'heure. Nous sommes très sensibles. Une extrême sensibilité. Alors, on est obligé de faire passer vite, sinon on serait obligé de garder le Samu en permanence à la porte du bus, ce qui marquerait mal. Pour faire passer vite. Parce que nous sommes très sensibles. Imaginez-vous, enfermés dans un musée la nuit, oui, avec toutes ces toiles, toutes ces statues, ce serait trop éprouvant pour la sensibilité européenne, on ne peut pas le faire. Voilà. Et donc, cette décharge produisait ça, ces intenses émotions incommensurables. Et puis alors, comme autre œuvre d'art phénoménale, il y a le tas d'ordures de Marseille. Vous avez entendu parler peut-être. Il faut que vous le visitiez. Si vous passez dans la région, vous prenez la direction d'Entrecin. Entrecin, il n'y a pas d'œil, c'est Entrecin. C'est juste avant d'arriver à Entrecin, il y a un rond-point avec un olivier, c'est à droite, c'est indiqué d'ailleurs. Alors, c'est une décharge où arrivent les ordures de Marseille. 1500 tonnes chaque jour. C'est alimenté chaque jour, c'est toujours frais. Et bien moi, c'est mon frère qui m'a emmené voir cette décharge. C'est un écologiste. Quoi. Et là, il m'a emmené pour que je m'émeuve avec lui, mais dire qu'est-ce que c'est cette cochonnerie envers les populations, tout ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai été stupéfait d'admiration. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça vous fait. C'est grandiose, c'est extraordinaire, quoi. Moi je ne suis pas écolo, je vous le dis de suite. Hein. Parce que c'est très simple. Si on manque de chlorophylle un jour, on la fabriquera et puis c'est tout. Donc, on a trouvé les solutions. On peut répondre à toutes les solutions. Je vous garantis que le CO2, il y a quelqu'un qui va trouver la solution. Parce que le CO2, c'est formé de carbone et d'oxygène. Ce sont deux combustibles. On en trouvera bien carburant avec ça. Alors, il faut faire confiance à la science. Et nous faisons confiance à la science, nous les Européens. Et je reviens à la décharge. Cette décharge, il faut la voir. C'est plusieurs hectares, donc entouré de fils de fer, de grillage, Et là, on déverse les ordures. Vous les connaissez, les ordures, je ne vous les détaille pas. Hein. Les écrasés, les boîtes de conserve, les tubes de dentifrice, les sacs plastiques en pagaille, enfin, tout, les trognons de pomme, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est là, écrasé. Il y a les bulldozers qui travaillent au sol, ils s'écrasent comme ça. Il y a les rats qui courent comme ça. Puis il y a les mouettes. Après que les rats deviennent les mouettes deviennent des éclats de lumière. Puis ça recommence comme ça, les autobiens, on essaie ça. Prodigieux, quoi. Et alors, voilà que sur cette décharge souffle le Mistral. Alors le Mistral, je précise tout de suite, c'est un vent du Nord, d'accord. Mais du Nord, de chez nous. Parce qu'il y a des Parisiens ou des Lyonnais qui s'imaginent qu'ils viennent de chez eux. Pas du tout. Ils viennent d'Occitanie, à quoi c'est tout. Ils viennent de l'Occitanie du Nord et ça tourne comme ça. Ça c'est pour ça qu'il faut toujours mettre les choses au clair. Alors, il souffle. En soufflant, il soulève des plastiques. N'est-ce pas de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Il les envoie dans le ciel. Et alors ça fait des maelstroms, des virages sur l'air, des tourbillons, des tourbillons, dessus, à 100 mètres dessus, ça, et ça touche. Et alors, voilà que, devant la décharge, il y a deux fermes. Et voilà que les grands arbres tendent leurs bras, les petits arbres, leurs petits bras, ils attrapent tous les plastiques au passage. Et ils s'en mettent partout. C'est très très bon. Ça me coupe le souffle. Je ne peux pas dire autrement. Surtout que ça fait penser comme à des moulins de prière du Tibet. Là, c'est moulin de prière du gigantesque. Le Tibétain, ils tombent tous à genoux. Ça. C'est formidable. Et alors, voilà que surtout pour nous, alors, pour les provinciaux, moi je suis provincial, je vis quoi. Eh bien, on a l'occasion de trouver là une vraie crèche provençale, en grandeur nature. C'est extraordinaire, vraiment très 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 beau. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est la profondeur de champ. Toutes ces couleurs des plastiques, c'est dans une profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Vous savez, il n'y a que les photographes qui comprennent un peu. Ici, il y a fait déjà, il y a la moitié qui comprennent les autres, ils répètent le mot, ça comprend. Enfin, alors voilà, la profondeur de champ, c'est comme si. Quand vous allez rentrer l'intérieur, par exemple, vous avez envie de boire un coup, vous allez au réfrigérateur, vous ouvrez la porte. Et alors, il se peut qu'il y ait une porte qui l'éclaire encore, votre réfrigérateur, parce que c'est un coup qui se... Il éclaire. Et qu'il n'y ait pas de porte au freezer. C'est le jeu. Et alors, au moment où vous ouvrez, la lueur de la loupiote glisse sur les glaçons, et vous avez l'impression d'apercevoir les glaces du pôle, et l'ombre de Frankenstein qui c'est loin pour aller mourir. Ça, c'est saisissant. Hein. En fait, vous n'y croyez pas quand même. C'est certainement l'impression que ça fait. Voilà, la décharge de Marseille. Alors, c'est très beau. Par contre, je ne peux pas vous dire que nous avons des marées noires. Parce que la marée noire, c'est le summum de l'œuvre d'art. Il n'y a pas mieux. Alors, pour ça, il faut aller en Bretagne. Et avec un peu de chance, il y aura une marée noire au Mont Auxerrois. Alors là, c'est tout à fait phénoménal. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez que entre les deux guerres, il y avait des peintres qui pratiquaient une peinture aléatoire. C'est-à-dire, ils mettaient une feuille de papier blanc, le dessin, une coquille d'escargot pleine d'encre de chine. Et là, il s'est tombé, plat, ça se répand, des taches, on laisse sécher au signe, c'est une. Eh bien, la marée noire, c'est exactement pareil. Sauf qu'on va passer l'escargot par un pétrolier géant. Bam, bam. Et vous en avez sur des milliers, des centaines de kilomètres, qui se répandent, tout ça, se répandent. Et alors d'abord, ça fait beaucoup de bien à l'âme européenne parce que ça arrondit les angles. Tous les angles sont arrondis par le brut. Et puis alors les nuances de bleu, de noir, de vert, de violet, de jaune, de rouge, parce qu'il y a même du jaune et du rouge, qui ne cesse pas de varier à longueur de journée. L'œuvre se transforme de seconde en seconde. Et puis surtout, vous pouvez avoir la chance de voir un oiseau de mer qui a été pris dans le pétrole et qui essaie de s'en sortir. Alors, il essaie comme ça, il est anoupli, bien sûr, et il essaie au ralenti de s'en sortir. Il veut s'en sortir parce qu'il ne sait pas qu'il est dans une œuvre d'art. Alors ça, c'est très bon. Parce que vous voyez, la vie à l'état pur. Et si vous voulez connaître le ralenti, Et vous devez connaître Brahms. Ben, quand vous irez au réfrigérateur, vous irez très lentement. Mais pas très lentement, comme ça. Non. Très lentement. C'est véritable poésie. Ah, par exemple, vous prenez une demi-heure pour arriver au bord de la scène. Je résume. Et alors, pendant ce ralenti, vous allez commencer à souffrir, bien sûr. Les muscles, les articulations, vous allez entendre des bruits dans votre corps incroyables, mais vraiment des choses incroyables. Et vous serez tenté de vous arrêter. De vous arrêter, bien sûr, parce que vous souffrez trop, mais il faut continuer. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut sentir comment tout travaille à l'intérieur. Et vous allez devenir de plus en plus grand, et vous allez tout d'un coup vous sentir comme un continent en marche. C'est ça que les Européens doivent se sentir d'être. Un continent en marche. Mais bien sûr, ce qu'on ne peut pas voir de près, ce sont les immenses colliers qui décorent la Terre, n'est-ce pas ? Avec les déchets de satellites, tout ça, les moteurs qui restent en rade, tout ça, et tout ça tourne autour de la Terre, comme une ceinture, une immense ceinture de bijoux. Ça, il n'y a que ceux des autres galaxies qui doivent le voir, et doivent se dire, mais quel est ce peuple, quelle est cette race, quelle est cette espèce qui peut produire des choses aussi belles. Ben, je suis très ému de vous dire ça. Oui, vous, les Européens, la Israël, la terre de l'angombe, il y a quelque chose qui nous caractérise aussi, c'est la propreté. Le blanc, forcément. Le blanc. Nous nettoyons, nous curons, nous récurons. Nous utilisons les détergents industriels à l'usage domestique. Oui. Le meilleur dans l'industrie, on s'en sert pour le meilleur dans la maison. Et alors, on a pour notion, oui, le blanc, white is beautiful. Il y en a qui ont dit dark is beautiful. White is beautiful. Ça, c'est vrai. White is beautiful. Et alors, on a rencontré d'autres peuples, bien sûr, on y viendra à ça. Et la différence, c'est qu'eux, ils n'ont aucun sens de la propreté. Par exemple, nous, une tâche craque à la machine. Une tâche, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Examinons. Ils lisent l'avenir dans les tâches. C'est pour ça qu'ils sont sales. Ils font sales de notre point de vue, parce qu'eux, ils ne se trouvent pas sales. Vous voyez ? C'est leur philosophie. Vous imaginez ? Vous nous voyez, nous, en train d'examiner. Quelle horreur, oui, quelle horreur. Et bien, eux, ils font comme ça. Ouais. Il faut vous dire que nous les avons rencontrés et ils n'avaient pas le sens de la propriété. Donc, pas le sens de la propreté. Je vais expliquer. La propreté sort de la propriété. En 1990, quand je disais ma propre chemise, c'était la mienne. Propre, c'était à mon nom. Vous voyez encore ça ? C'est mon propre nom, mon nom propre. Le nom ? Il faut attendre 1280 pour que propre soit utilisé dans le sens de passable. C'est-à-dire, ma propre chemise est propre 1280. Il faut près de 2 siècles pour extraire le mot propre de la propriété. C'est du travail. Donc, ils ne sont pas encore arrivés. Parce qu'ils ne sont pas les notions de la propriété. Ce qui est asservi, d'ailleurs, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Et la propriété. Mais il faut quand même que je vous dise aussi que il y a un fort pourcentage dans ce pays de gens qui ne se brossent pas assez les dents. Il y en a aussi qui ne se lavent pas assez. Il y en a beaucoup qui ne font pas leur lit chaque matin. Vous voyez ? Ce sont les douteux. Les douteux, c'est comme si l'autre monde était parmi nous. Ce qui est intolérable. Alors, je ne vous dirai pas le pourcentage, parce que vous soupçonneriez immédiatement vos voisins et vos voisines. Donc, je passe là-dessus. Et je passe à autre chose. Nous, les Européens, une chose extraordinaire, la tondeuse à gazon. Ça sert le dimanche matin en général, avant le rasoir, même avant l'éponge pour la bagnole, le rasoir, et peut-être la messe. Alors, ça permet de se tenir en forme, bien sûr, et puis d'afficher un standing, quand même. Parce que Imaginez que vous vous promenez dans la garrigue, ici à la patrouille, et sous le soleil d'été écrasant, tout est jauni partout, et vous arrivez devant une villa avec le portail, et devant la villa, un gazon magnifique. Et là, vous vous dites, il y a quelqu'un qui habite. Si c'est pas n'importe qui. Donc, tu vaux ce que vaut ton gazon. Pensez-y à ça, pensez-y. Parce que vous serez jugé sur votre gazon. Et un vrai gazon. Voilà, alors, on est là avec la tondeuse et on suit les allées. Alors, dans les allées, il y a la Vénus avec la poche d'eau comme ça. On ne trouve pas. Bon, on n'a pas eu le temps de mettre l'eau, sérieusement. Il y a aussi les chauves. Les nains de jardin. Et quelquefois, il y en a un qui est un nain siffleur. C'est pour me dire que tu as des voleurs qui habitent. Et ce qui est quand même terrible, c'est que certaines personnes enlèvent les nains de jardin et vont les mettre dans la forêt. Mettez-vous à la place de ces nains qui sont nés dans la vie urbaine, qui n'ont jamais connu que la ville, les gens, ils se trouvent d'un coup en forêt, ils doivent mourir de peur, c'est vrai. C'est pas normal de faire un jeu. Alors, le programme, il fait sa pelouse, là, et il taille plus court. Enfin, c'est comme la barre, quoi. C'est exactement pareil, parce qu'il faut, ce qu'il faut, quoi. Il faut mater la nature. Toute la leçon là, mater la nature, vraiment, dominer la nature, vous voyez. Que ce soit avec les maladies, avec les défauts qu'on a, il faut cacher tout ça, il faut toujours cacher, donner une apparence. Nous, les européens, on est vraiment forts, vous savez, vous voyez ce que je dis, putain, ça barbe, la pelouse. Ça me fait penser à ça. C'est une manière d'acquérir du self-control. C'est-à-dire être capable de contrôler ses émotions et tout ce qu'on sait. Par exemple, il y a des personnes très distinguées qui ont la classe et si on leur dit par exemple Clearstream A380, ils disent petit. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est la classe. C'est au-dessus de tout. Ça me fait penser au Condor. Vous savez, le poème de Le Condorino, juste la fin. Le Condor de plaisir lisse étire sa plume. Il érige son cou musculeux et pelé. Il s'élève en fouettant l'âpre neige des Andes. Monte dans un cri rauque où n'atteint pas le vent. Et loin, très au-dessus de cet astre vivant, il dort dans le soleil, les ailes toutes grandes. Vous voyez l'image, hein? Il dort dans le soleil, les ailes toutes grandes. Tranquille. Quoi. Sans complexe, sans culpabilité, rien. Les seigneurs. Voilà. C'est ça, c'est à ça qu'il faut tendre. Il faut que chacun vous tendiez à ça, devenir un condor. Nous, les Européens, la valise à la main. Ce qu'il y a aussi, c'est que, même si ça ne plaît pas, nous sommes des chrétiens, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Ils n'ont pas encore écrit dans le traité, mais ça viendra. Vous êtes... nous sommes des chrétiens. Et notre Dieu, c'est comme tous les produits, beaucoup de produits, ils nous viennent des produits asiatiques, ils nous viennent de l'autre monde, quoi. Comme le cacao, le café, le caoutchouc. Mais Dieu, c'est pareil. Et à l'origine, il vient d'Égypte. C'était un pharaon qui a découvert Dieu, qui a découvert le concept de Dieu, qu'il a inventé. C'était Akhenaton. Vous le connaissez peut-être mieux par le nom de sa femme, Néfertiti, très belle Néfertiti, incomparable. Et ils avaient 6 filles, d'ailleurs. Et alors, Akhenaton, très jeune, qui s'appelait Amenophis IV, a décidé qu'il y avait beaucoup trop de dieux en Égypte. Il y avait surtout le dieu Amon qui était un terroriste. Il a donc balayé tout ça dans le domaine. Il a dit terminé. Désormais, il n'y a plus qu'un seul dieu, le soleil. Le disque d'or du soleil, Aton. Donc moi, je m'appellerai Aken Aton. Alors, ça fait un fouet terrible. Il a mis contre lui tout le clergé, toutes les armées. Enfin, il a tenu quand même 18 ans. Et alors, le dieu de d'Akhenaton, Aton, donc, il le représentait sous forme d'un disque d'or qui envoie des longs bras avec des petites mains comme ça, qui viennent caresser Akhenaton, les Nefertiti, les enfants, et puis les voisins, et puis les amis, tout ça, ils viennent caresser. Bon, c'était un Dieu bienveillant, souriant, enfin, magnifique, un Dieu extraordinaire. Et à la même époque, vous vivez en Égypte, avec tous les autres, juifs, Moïse. Et Moïse a été autorisé à quitter l'Égypte. Et en partant, il a pris l'idée d'Akhenaton. Une idée, ça coûte à peine, c'est pas lourd, ça peut servir beaucoup. L'idée du Dieu unique. Alors il est parti, ils ont traversé la mer Rouge à pied, vous savez, vous connaissez l'histoire. Ils arrivent, la mer Rouge s'ouvre, ils passent, ça se referme, là on dit les armées du Pharaon. Alors Moïse arrive dans le Sinaï, il dit je vais monter sur la montagne, on ne sait pas ce qu'il est allé, il est redescendu, il a dit voilà, j'ai les tables de la loi. Et puis il a inventé ce Dieu. Mais il a changé complètement le Dieu. D'un Dieu bon, bienveillant, il a fait un Dieu méchant, terrible, vengeur, le poing toujours levé, toujours prêt à frapper. Oui. Alors il y en a qui ont dit, mais c'est un vrai salaud, ce Moïse. Il ne peut pas nous laisser le Dieu bon, pourquoi il nous donne le mauvais? Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'Européen Moïse. Il savait ce qu'on était, ce qu'on valait, tous des crapules. Oui. Et c'était un sage. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il avait une barbe bifide, comme ça. Comme les chèvres, vous savez, les mamelles des chèvres. Alors, il nous a donné ce Dieu qui est toujours prêt à frapper. Donc, tout le monde fuit devant Satan va être puni. Mais en même temps, ceux qui font vraiment le mal, ils savent qu'ils seront punis. Mais ça les libère aussi. Et oui, parce qu'ils savent qu'ils seront punis, de toute façon. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, les forts, ça les calme, et les forts, ça donne des idées. C'est comme quand ils s'ajoutent, il y en a toujours qui trouvent des moyens de s'en sortir. Voilà. Donc, ça a été le grand changement, il a donné ce Dieu. Quoi. Et ce qui fait que maintenant, chaque dimanche, partout, il y a une cloche qui sonne. Il n'y a pas la cloche tibétaine, vous savez, la propre tibétaine. Hein. Il n'y a pas la cloche bouddhique. Bam. Il n'y a pas le voilà, ou il n'y a pas non plus le bout, les dalles, il n'y a pas les alarmes, il y a les alarmes des voitures. Alors c'est quelque chose. Et il y a les cloches, voilà, on subit les cloches. Qui se permettent de faire sonner la cloche. Alors, juste le dimanche. C'est quand même un cas là. Hein. C'est le Dieu mauvais, quoi. On a le Dieu mauvais sur toute la vie. Je vais faire le rapprochement entre ça, les cloches et les mauvais. Si quelqu'un peut monter, ça me serait utile. Enfin, nous les Européens, la Valise Amen, le temps clair et dans l'ombre, nous avons le jardin public. Bah, évidemment, le jardin public, quoi qu'on en trouve dans les villages aussi, hein, c'est très bien fait. Le jardin public, c'est sans doute un vieux souvenir, il y en a qui diront de l'Éden, on passe au rêve, assez vite. C'est un vieux souvenir de la forêt originelle. Les singes sont restés à se balancer. C'est pour ça qu'ils ont voulu rester à se balancer, à manger les bananes, ils ne sont pas devenus des hommes. Bien sûr, ils vont manger, ils vont se reposer, donc ils sont restés des singes et nous, on est devenus des hommes. Alors on reproduit dans les villes la forêt primitive, mais à organiser. C'est-à-dire, elle est conçue de telle manière que c'est une grande école de la vie. Il y a des cheminements, des surplombs, des abîmes contrôlés, des belvédères à travers les vitres. Il y a des cloches. Il y a, et même à Avignon, nous avons une horloge analématique. Analématique. Un M et deux M. Ce qui va le voir, c'est pour nous, alors, il y a une grande plaque de marbre, comme ça, où sont inscrites les dates de l'année. Il y a des plots tout autour. Vous venez, vous vous mettez à la date du jour, approximative, comme ça, et avec votre ombre, le soleil dans le dos, vous indiquez l'heure. Est-ce que vous mesurez l'importance de cette chose? Vous indiquez l'heure. Vous voyez? C'est fini. Vous sentez quelqu'un, vous savez. Et vous vous retournez, donc, émerveillé, pour ça, le soleil, et là, devant vous, vous avez la Vénus aux hirondelles, toute nue comme ça, les hirondelles sur les mains qui vous fait signe. C'est la récompense. Voilà. Et alors, dans ces jardins, ensuite, il y a la table d'orientation. Alors, la table d'orientation, c'est fait très simplement pour... Quand on s'y place, on est au centre du monde, n'est-ce pas? On fait le tour et le monde entier est un objet. Donc ça forme, ça entraîne les gens, et surtout les enfants, il faut les emmener à ça, à devenir le centre du monde. C'est-à-dire partout où ils vont ensuite dans le monde, ils sont le centre. Vous comprenez ? Ils sont le centre. Mais s'ils sont le centre, c'est qu'ils donnent le sens aussi à l'histoire. Ils sont le centre, ils sont tout, absolument tout. C'est tout à fait extraordinaire. C'est une invention du 19e siècle, je crois. Le jardin public tel qu'on le connaît, c'est une innovation étonnante, vraiment étonnante. Le jardin public est très beau. Ah. La valise. Vous aurez la valise à la calculette dans la poche. La petite croix autour du cou avec les clés de la valise. Le sac banane sur le ventre. Européen, bien sûr. Avec l'argent, il n'y a pas tout ça. La valise, c'est quand même quelque chose. Une grande émotion. C'est une émotion française. Je dois le dire, c'est pas occitan, c'est français. Elle a été faite en Occitanie. Je vais vous dire comment. Oui, une invention française. Alors voilà. Mais d'abord, je vais dire l'importance de la valise. La valise. Ah, ce bouton. La valise, donc, du temps où nous étions des paysans, nous n'avions pas de valise. Mais avant d'être des paysans, nous étions des chasseurs. Et nous nous nourrissions avec la viande que nous arrivions à capturer. Ce qui était très difficile. Et puis nous sommes devenus des paysans. Et nous avons commencé à mettre de côté. Nous avons inventé le coffre, mais pas la valise encore. Le chasseur, il avait le sac. Le paysan, il avait le coffre. Et la valise, c'est un coffre transportable, c'est-à-dire un coffre et un sac en même temps. Vous voyez, c'est très, très important. Alors les paysans ont joué un très grand rôle en France. Vous savez que les politiques aiment nous rappeler parfois que nous sommes tous des descendants de paysans, ce qui est vrai. Alors les paysans se réjouissent qu'on pense enfin à eux, qu'on les reconnaisse, qu'on leur donne de l'importance. Et ils se font des idées là. Parce que si on descend bien, nous, des paysans du passé, eux, ce sont maintenant des paysans dépassés. Parce que la nourriture, on la fabrique industriellement. On va se passer des paysans bientôt pour se nourrir. Vous voyez, c'est un grand progrès aussi. Mais non, non, un progrès. Vous me direz, on y perd, mais ça fait rien, on y perd. Bien sûr, on y perd toujours. Mais quand même, on y gagne. On y gagne. Enfin, c'est évident, quoi. Je ne veux pas en faire la démonstration, si on passe la nuit. C'est évident. Alors, bon. Et puis, la valise, je vous disais, les chasseurs. Et les chasseurs, ça me fait penser qu'il y a, à l'heure actuelle des entreprises, des écoles qui font faire des stages de survie. Vous savez, vous êtes peut-être entendu parler. Alors, le stage de survie, ça consiste à avoir beaucoup d'entraînement physique, un entraînement physique considérable, pas à la portée de n'importe qui. Et à l'entraînement, aussi à l'entraînement mental, et ça se fait avec le Survival Handbook. SAS, c'est les services spéciaux aériens britanniques. The Survival Book, le livre de survie des services spéciaux. Dans ce livre, on passe en revue toutes les régions du monde, avec toutes les plantes, tous les animaux, tout ça qui. Il y a tout là-dedans. Tout ce que vous pouvez imaginer. Survivre à la mer. Vous apprendre à nager aussi. Il y a des plantes vénéneuses, il y a la manière de faire du feu sous la pluie. Il y a vous n'imaginez pas, c'est une mine. Il y a même, si vous tombez dans le Pacifique, on vous apprend comment vous en sortir s'il y a des requins. Ça, les gens qui font le stage de survie, avec l'entraînement, ils doivent se l'apprendre au maximum par cœur. Pour être capable de se débrouiller n'importe où on les lâche, parce que le but du jeu, c'est au bout d'un mois, on prend les gens qui ont fait le stage, on les parachute quelque part dans le monde, et ça dépend. On les parachute avec seulement une tenue de combat, bâton de l'Ouest, bien sûr, hein, et un survival knife, Un couteau de survie. Alors, le couteau de survie, vous voyez, c'est un bout. Et il y a une belle lame. Ici, il y a une scie, ça c'est. Un décapsuleur à bouteille, c'est pas utile. Ici, il y a la boussole au-dessus. Vous dévissez le dessus, qui est dans le manche. Autour des quoi ? Du fil, des aiguilles, des hameçons. Mais forcément, ça vous sera très vite. Les anneaux, ça peut aussi servir. Il y a, bien sûr, à Élysée, hein, la pierre à Élysée. Eh bien, on vous lâche quelque part dans le monde avec un bâton d'ouest with a survival knife. Et si on vous jette en Éthiopie, par exemple, et si au bout de semaine vous rentrez à Paris, vous pouvez être affecté à diriger une grande entreprise nationale. C'est quelque chose, hein, c'est vraiment. Alors, revenons à la valise, cette invention française. Donc, vous savez peut-être qu'au XIIIe siècle, il y a eu la croisade contre les Albigeois. Voilà que les Albigeois, les cathares, se répandaient en Occitanie. Ils sont arrivés par l'Est, ils ont arrivé vers l'Ouest, et c'était des gens qui étaient très frustes, très simples, des espèces de chrétiens primitifs, a-t-on dit, moi je dirais plutôt des bouddhistes, me faire chicaner. Mais là, ils plaisaient beaucoup au peuple, parce qu'ils mangeaient peu, ils buvaient peu, ils étaient chastes, ils étaient serviables, ils étaient parfaits. D'ailleurs, le peuple les appelait les parfaits. Les parfaits et les parfaites, parce qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes au sujet de la responsabilité cléricale. Ou bien on les appelait les bons hommes et bonnes femmes. Et alors, ils faisaient des progrès dans la conscience des gens considérables. Ce qui fait que les gens finissaient par leur confier les baptêmes, les enterrements, les mariages, ils leur faisaient des dons, en fait. Et l'Église catholique, pendant ce temps, qui était dirigée partout par des gens pervertis. Ah, je sais plus comment on dit, là. Enfin, vous voyez la chose. Une catastrophe. Le pape Innocent III se demandait comment faire, comment s'en sortir. Et il était dans la situation de la gauche, par exemple. Comment faire pour s'en sortir ? Alors, là-dessus, voilà que son légat est assassiné à Saint-Gilles-du-Gard, à Saint-Rome. Pierre de Castelnau est assassiné. Le pape prend prétexte, il lance l'appel à la croisade contre les cathares. Il se tourne vers le nord, bien sûr, et il dit à tous ceux qui viendront faire la croisade avec moi, 40 jours, eh bien, rémission totale de leurs péchés. En entendant cela, les barons français et allemands, c'est les mêmes. Hein. Ils sautent sur leur destrier et ils déferlent en Occitanie, par la vallée du Rhône. Ils déferlent dans le sens de l'histoire. Parce que le sens de l'histoire, ça va toujours du nord au sud. Ce qui fait qu'au sud, les gens du sud prennent toujours des baffes. Et c'est très bon pour eux parce que ça les rend intelligents. Ils sont beaucoup qui j'arrive. Et alors, elle est terrible, la croisade. Arriver, puis pas mal, puis baiser, tuer les tous, Dieu, comme vrai ici. Il est cuit. À Carcassonne, ils arseniquent le vicomte, très carré. Ils arrivent devant Toulouse, les armées d'occupation, les agresseurs. Ils arrivent devant Toulouse, et voilà que devant Toulouse, devant les remparts à l'époque, devant Toulouse, une femme du haut des remparts tue le chef de la croisade d'une pierre en plein front. Simon de Montfort. Il faut vous dire qu'en ce temps-là, les femmes étaient les égales des hommes. C'était l'histoire à l'époque des troubadours. Mais faire rassurez-vous, depuis, on est mis bon ordre. Et en plus, à Toulouse, ils s'en vantent d'avoir fait ça. Parce que vous trouvez le plaque où il rappelle que l'incident a eu lieu là. Et l'État laisse faire. Il se glorifie. Incroyable. En fait, ça restera sans doute encore longtemps. Peut-être que les Toulousains ici viennent et à défendre avec les armes à la main. Je ne sais pas. Donc voilà, Simon de Montfort, mort. La croisade concernée. Les cardinaux, les évêques, les fils de Simon de Montfort, les chefs de guerre qui étaient avec lui, tout le monde là, consternés, ne sachant pas du tout que faire. Les fils disent, il faut l'enterrer en terre chrétienne. On ne peut pas l'enterrer ici. Pourquoi ? Ben, c'était une terre d'hérétiques. Alors, terre d'hérétiques, c'est depuis toujours une terre d'hérétiques. Je vais vous lire quelques... Les problèmes toujours, hein. Je vais vous lire quelques opinions, là, françaises. Le jazz intelligent. Hein. Mes collègues me disent que de tout temps, le Midi s'est montré moins loyal que le Nord. Hippolyte Tell. Notre étourderie vient du Midi. Et si la France n'avait pas entraîné le Languedoc et la Provence dans son cercle d'activité, nous serions heureux, actifs, protestants, parlementaires. Ernest Renan. Le Sartre des Valois a fait à Reims une France sans cohésion, une France absurde. Il nous a dotés, pour longtemps hélas, de ces êtres aux brocs de noix et aux yeux vernis, de ces broyeurs de chocolat et mâcheurs d'ail, qui ne sont pas du tout français, mais des Espagnols et des Italiens. Jean-Joris Carlusman. Les méridionaux, voilà la nuit. Provençaux, langue d'ancienne, Aquitaine, ne valent pas mieux que les juifs. Ils sont les causes vivantes de la déchéance de l'art, de l'abolissement des consciences, de l'abaissement moral et politique de la France. Le méridional se faufile partout où il y a une parcelle de pouvoir à saisir. Le pouvoir, c'est ce qui hypnotise comme l'or hypnotise le zénith. Gaston Lénine. Dès le 24 août 1914, toutes les difficultés rencontrées par l'armée française seront imputées aux soldats du Midi. En France, les populations du Nord sont bien supérieures à celles du bord de la Méditerranée. Les races inférieures habitent généralement les régions où la lumière est violente et la température moyenne élevée. Alexis Carrel. Zone sud, zone peuplée de bâtards méditerranéens dégénérés, de nerfs, félibres gâteux, parasites arabiques que la France aurait eu tout intérêt à jeter par le sud. Au-dessous de la Loire, rien que pourriture, fainéantise, infect mestissage négrifié. Louis Ferdinand Céline. À l'Afrique noire, les gens sont peu abondants. D'ailleurs, il est bien connu que plus on va vers le sud, plus les gens sont paresseux. Par exemple, dans nos régions parisiennes, on est plus actif que dans le Midi, où les gens passent le plus clair de leur temps couchés dans leur hamac à siroter leur pastis. Il y en a encore des quantités comme ça. Alors voilà, donc l'auteur qui dit voilà la place des fils, il dit que faire avec ce cadavre qu'on ne peut pas enterrer ici, on ne peut pas l'emporter, parce que vous imaginez à cette époque-là, sur ces routes qui étaient bien, avec ces chaleurs, un cadavre. Alors que faire ? Ils étaient tous là, autour de constater, que faire ? Et tout d'un coup, il y en a qui a une idée. Il n'y a qu'à le faire bouillir. Alors, ils l'ont fait bouillir. Les chairs se détachent du corps. Oui, les chairs. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On n'en parle pas. Et il reste le squelette. Alors, on sort le squelette. Auparavant, on a pris une peau de bœuf, on l'a étendue. Là. On sort le squelette, on l'épauche, il y a pas de peau. On le met dans la peau de bœuf. On referme la peau de bœuf. Clac, il suffit de mettre le poignet. Eh oui. Alors, ça a évolué quand même. Aujourd'hui, on a les roulettes. Bon, ça, c'est un vieux modèle. Mais c'est justement d'autres modèles parce que c'est ça quelque chose de gênant. Regardez, même quelqu'un qui sait s'y prendre, qui sait faire. Il a l'impression qu'il tire son chien par le collier. Alors, c'est pas des pattes. Mais ce qu'on a vu récemment, en fait, c'est ça. Voilà, la première fois que j'ai vu celle-là, c'était à Rome. Il y avait des roulettes dessous, la poignée là, donc tout d'un coup, ça me rend plus. Et plus élégant, ouais. Et surtout, ça affine la silhouette et ça allonge. Et c'était déjà connu. Et il y a sans doute d'autres impressions à venir. Ben, on attend la Wallis, la Wallis a été éliminée, bien sûr. Et vous allez venir la prochaine. Ça sera beau, hein, ça sera formidable. Donc, nous sommes prêts à partir. Nous les sommes. Nous allons nous trouver un jour à la pointe extrême de l'Europe. Cette Europe qui vient des feux de l'Est là-bas, de l'Asie, qui s'allonge comme une immense langue de terre, comme ça, avec des contorsions en haut, en bas, en haut des fjords, en bas des calanques, des plages, des rochers, enfin, c'est très très ouvert. Et ça va, c'est jusque dans l'océan Atlantique, là. Et la pointe extrême, si vous voulez, c'est Lisbonne, on peut dire. Ouais. Lisbonne, c'est comme si on était tous à Lisbonne. Tous là regroupés, prêts à partir, prêts à s'enlever. On est tous regroupés comme des truffes, comme des puces sur la truffe d'un renard. C'est quand un renard veut traverser une rivière, veut se débarrasser de ses puces, il plonge dans une rivière, complètement, sauf la truffe qui reste dans pour respirer. Et alors les puces, pour ne pas nommer le mourir, vous voyez, elles montent vers la truffe. Il les connaît toutes, puisqu'il les nourrit, il les loge. Donc il essaie où elles sont. Quand elles sont toutes là, hop, il plonge les toutes. Nous, on peut se demander quel renard serait capable de nous noyer tous comme nous sommes à la pointe de l'Europe. Et nous sommes là prêts à partir. Prêts pour échapper à cette Europe, toujours. Échapper à l'Europe, échapper à l'Europe, trouver une terre d'accueil, trouver quelque chose, aller ailleurs, quoi. Comme un vol de chair faux hors du charnier natal. Fatigué de porter leur misère au bout d'elle. De palos, de bonnets, routiers et capitaines, partaient ils pour un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque nuit, inspirant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommet d'un mirage doré, ou rêvant à l'avant des blanches caravelles. Ils regardaient monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. José Maria de Pereira, agence cubaine. Et alors, donc, on partit. Nous avons tous été plus ou moins des émigrants. Et nous avons au moins tous des photos bistres de famille, dans laquelle on voit ces émigrants qui sont sur le quai d'un port, des photos bistres. Alors les femmes, vous voyez, ont des cheveux, des chignons en général, des chignons, des longues grandes, bien sûr, à volant. Les hommes sont toujours mal rasés, et ils ont des chapeaux feutres. Ils sont tristes aussi. Et puis il y a des enfants qui ont des yeux comme ça. Ils sont là. Et ils attendent. Ils attendent de partir avec un bateau. Et là, les enfants sont particulièrement curieux, ils regardent comme ça. Les enfants regardent toujours étonnés. Ils se toisent toujours tout le monde. Vous avez vu des petits, hein, de 2 ans, ils vous toisent, incroyable. Incroyable. Vous avez honte, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Alors, les enfants, parce qu'ils sont très surpris, ils sont continués à être surpris un certain temps, parce que quand ils étaient dans le ventre, ils ont entendu tout ce qui s'est passé. Ils ont tout entendu. Et au moment où ils naissent, ils tombent dans le monde qu'ils ont entendu. Ils sont complètement stupéfaits. Ils sont épouvantés. Donc ils sont le souffle coupé. Et là, ils vont leur taper sur le cul, tac, pour les remettre en marche. Mais le coup d'être étonné, ça leur dure encore. Ils se demandent encore comment ça va se passer. Et puis peu à peu, comme tout le monde, ils s'habituent, qu'on s'habitue à tout, ils finissent par devenir des adultes. Et c'est fini. Alors ils sont tous là, donc. Ils attendent et il a la bande de son qui est très belle. J'ai oublié de vous parler de la bande de son du tas d'ordures. Oh putain. Les moulettes dans le ciel, vous n'imaginez pas ce que c'est. Mais là c'est pareil. Mais c'est plus les moulettes, c'est les sirènes des bateaux. Ouais, ça, c'est sirènes. Et ça attend. Alors ils sont prêts à partir parce que ils ont écouté ce qu'on leur a dit. Croissez et multipliez, remplissez toute la terre. Ils ont dit d'accord, on part en pire autre côté. Mais de l'autre côté, c'est pas encore. Ça a créé des malentendus. Il a fallu les régler, ces malentendus, avec la Bible et le Colt. Puis ça a été réglé. Ils avaient des terres vierges. Il fallait bien qu'elles servent. Ces terres-là, il fallait qu'elles servent. Et on s'allait servir. Voilà. On était donc des migrants. Et alors, c'est facile à retenir là. Ceux qui partent, ce sont des émigrants, ils vont vers l'extérieur. Et ceux qui rentrent, ce sont des immigrés, ils viennent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a toujours plus d'immigrés que d'émigrés, ce qui crée des problèmes. Il n'y a pas d'équilibre, vous voyez, forcément. Et là, il y a une belle raison. Parfait. Nous, les Européens, la balisane, la tête, la dent, on fait quelque chose pour ça. Voilà. De l'autre côté, voilà pour Védi. Les autres. Les autres. Ouais. Alors, les autres, ce ne sont pas des gens du tout comme nous. Ils peuvent être habillés comme nous, mais ils ne sont pas du tout comme nous. Par exemple, ils disent de nous qu'on a le nez pointu. Rendez compte, le plus haut qu'ils ont, le nez pointu. Une fois, je me trouvais dans une espèce de congrès, avec beaucoup de gens, il y avait des gens de l'autre monde d'ailleurs, en costard, cravate, hein. Mais on était réunis, c'était au repas, si vous vous souvenez, c'était au repas, il y avait un grand nombre de tables, 10 à 12 places, on dînait là, on dînait ce soir, et voilà qu'il y a une espèce de Chinois en face de moi, qui nous regarde, il y avait un Italien, un Espagnol, contre moi c'est pareil, hein. Il fait comme ça, ils ont le nez pointu. Donc, je fais, et tous les autres éclatent de rire. Et voilà qu'un garçon passe, vous voyez, pour servir. Il demande de quoi s'agit-il. On lui dit, ils ont le nez pointu. Le garçon s'en va, il va servir le table, il lui demande si ça va, ils ont le nez pointu. Et de table à table, tout le monde, ils ont le nez pointu. Tout le monde s'esclaffait dans le restaurant, de toutes les couleurs, ça s'esclaffait comme ça. Alors là, le coquin de son ami, comme on disait l'ami, j'ai tapé sur la table, silence total. J'ai écouté, mettons les choses au point. Il vaut mieux avoir le nez pointu et manger à sa faim, que le nez pâté et crever la gueule verte. Ça a été le silence total. Non, mais il faut savoir se faire respecter, avoir le courage de ses opinions. Voilà. Si on est, on est. Sinon, il est quoi? Ouais, les autres, c'est pas du tout comme nous. Alors, il faut reconnaître une chose, les plus lointains, ils ont quand même le respect du monde, ça c'est vrai. Ils le respectent, ils l'aiment, ils l'écoutent. Ils s'en servent, mais pas plus que ce qu'il faut. Ils ne le détruisent jamais. Hein. Ils élèvent même des animaux pour améliorer d'autres dont ils s'occupent. Ils connaissent toutes les plantes. Ils font des médicaments. Enfin, ils gèrent le monde sans y toucher presque. Avec respect, ils sont... Voilà comment ils sont. Ça, je reconnais. Et puis leur musique. Ils font de la musique aussi. On a l'impression que c'est les profondeurs du monde qui parlent. Bon, c'est sauvage. D'ailleurs, parfois, vous avez la chance d'entendre cette musique aussi. Enfin, je passe, je ne rentre pas le détail. Alors, ils sont donc complètement différents de nous. Par exemple, ils stable, quoi. Je ne peux pas dire autrement. Ils stable, c'est pas un jugement, c'est un constat. C'est un constat, ils stable. Par exemple, vous prenez un papou. C'est sympa, beaucoup, hein. C'est sympa, hein. Au bord de la mer, qui regarde la mer, parce que papou, ça regarde la mer aussi. Eh bien, vous le prenez, il y a 5000 ans, vous le prenez aujourd'hui, mais vous le prenez dans 5000 ans, c'est toujours le même papou qui regarde la mer. Rien n'a changé. Tandis que nous, vous nous mettez en Papouasie, sur une plage en mer de la mer, en 6 mois, vous avez une ville construite, avec les bureaux d'affaires, les banques, les casinos et tout ce que vous voulez. Là, toute la différence est là. Et si on le voit, moi, avec une valise sur une place de Papouasie, il y a un moulon d'histoire à côté. Parce que la valise, il faut se demander qu'est-ce qu'elle contient. Et là, c'est les histoires qui commencent. Les grandes histoires de l'Europe. Et de l'Europe plus large, mais les États-Unis. Parce que je veux dire que les États-Unis, c'est la réalisation de l'Europe. L'Europe s'est réalisée dans les États-Unis. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux et qu'ils se servent de nous. Voilà. Nous, les Européens, la valise de la mer. Nous avons le sens de l'autre. Ah oui, il faut le reconnaître. Le sens de l'ordre, le sens de l'autre. Par exemple, dans les villages, il y a peu encore, il y avait des idiots, un idiot de village, il n'y avait pas tout. Et Et cet idiot, il était très sympathique, pas du tout dangereux. Il était souriant en général, souriant un peu idiot, quoi. Un peu de barbe aux lèvres, comme ça. Il voulait serrer la main à tout le monde. Et c'est très gênant, quoi. Ça nous gênait de plus en plus, nous les Européens, avec notre sensibilité, mais c'est à la main comme ça. Parce qu'il faut dire, je l'ai déjà dit, on a une grande sensibilité. On a une telle sensibilité qu'on ne peut plus regarder la réalité en face. On est obligé de mettre des lunettes, de mettre des visières, vous savez, pour en voir le moins possible. On est obligé de voir la réalité à travers des caméras. Parce que imaginez que chaque soir, on nous apporte les cadavres du jour. Alors, pas beaucoup manger, ce serait insupportable. Tandis qu'à la télévision, c'est à distance. Donc, on pourrait regarder. On ne peut plus regarder la réalité en face. Donc il a fallu s'occuper de ces sitôt. Les amis, on leur a trouvé des asiles, les amis de côté, les amis chez nous. Ça s'appelle Montfavé. Il y a 2000 malades et 2000 soignants. Alors il y a des malades qui disent on dit qu'ils n'ont plus les soignants, mais c'est bon. Et alors on s'occupe d'eux là. On les fait passer le temps, on les fait jouer, enfin, on s'occupe d'eux. Et alors il y en a qui se sont dit, mais pourquoi on ne s'occuperait pas aussi des gros? Parce que les gros, ça souffre. Ça ne dit pas, mais ça souffre. Et quand il y en a 5 ou 6 qui viennent faire une partie de pétanque, qui disent, bon, vraiment, écoute, village à côté, et qu'il y en a un qui dit à l'autre, tiens, Polo, monte à côté de moi. On comprend tout de suite pourquoi. C'est parce que Polo est deux fois plus gros que les autres. Oui. C'est des allusions comme ça. Ils souffrent, les gros. Et puis, les grands, ça souffre. Terrible. Donc tout le monde veut être grand. Mais les grands, ils sont tellement grands qu'ils se plient pour écouter les autres, pour se mettre à leur portée. Ils finissent par être voûtés, à devenir un peu singes. Et il y en a d'autres, au contraire, qui veulent résister. Ils sont grands, ils se tiennent de plus en plus droit, et ils grandissent encore. Et plus ils grandissent, et plus ça fait. Et puis ils finissent par ployer aussi comme les autres. Mais les maigres, c'est terrible pour eux. Ils sont toujours affamés, les nègres. Les maigres, vous avez remarqué. Les maigres, ils mangent. On dirait qu'ils veulent grossir, ils n'y arrivent jamais. Mais en même temps, on a l'impression d'avoir l'autre monde avec nous. C'est comme les douteux, les maigres, en fait, c'est insupportable tout ça. On n'est pas entre nous, sereins, tous normaux, quoi, tous les mêmes. C'est insupportable. Et puis il y a les petits qui sont sous la ligne d'horizon des voitures. Et puis il y a les rouquins. Et puis enfin, il y a. Et ce qui serait formidable de se faire, un village pour chaque différence. Alors ils pourraient faire des tournois de tennis entre eux, des open, des matchs et tout, ce serait extraordinaire. Un tour des villages à vélo. Enfin, courses, ce serait extraordinaire. Et on serait en fait débarrassé de tout cela, et on pourrait vaquer à nos occupations, nous qui devons aller de l'avant. Sinon, on stagnerait nous aussi. Voilà. C'est quoi l'année, là? Parce que j'ai un avion. Hein? Une chose très importante, le feu politique. Je vais vous dire dans le sens de l'autre. Je vais vous donner un exemple assez dur, mais un bel exemple de ce souci qu'on a de l'autre, y compris de le sauver, parfois malgré lui. Si je prends par exemple l'Inquisition, vous savez, c'était encore pendant la croisade contre les albigeois. Ces albigeois, ces cathares, ils faisaient devenir fadas tout le monde, quoi. Il fallait leur régler leur compte, il fallait les sortir de l'erreur dans laquelle ils étaient. Parce que les évêques, les curés, le savaient, tous ces gens qui s'entêtaient dans leur hérésie, les cathares, les juifs ou les morts, un jour ils allaient se trouver au jugement du dernier. Et au jugement dernier, on ne ferait pas le quartier, il serait l'éternité de l'enfer. Alors les évêques, tout le monde se disait, mais que faire pour eux? Mais que faire? Que faire pour sauver ces gens malgré eux? Sinon ils seront brûlés, on leur répète, on leur explique, ils ne veulent pas comprendre. On leur dit, l'éternité, là, ils ne veulent pas comprendre. Que faire? Alors, il s'est fait la cause. Et puis un jour, il y a eu une idée extraordinaire. Il a dit, il faut les brûler. Oh, formidable. Allez, on les brûle maintenant, comme ça l'âme libérée du corps file directement vers le paradis. Extraordinaire. Alors ils se sont mis à brûler. Et il en est passé. Et alors là, je dois tirer votre attention sur la force de caractère qu'il faut avoir pour brûler son sabbat. Parce que celui qui doit être brûlé, il est attaché. Mais celui qui le brûle, il n'est pas attaché. Donc il peut ne pas mettre le feu. Mais il met le feu. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver l'autre. Ça, c'est la grandeur. C'est la force de caractère, la grandeur d'âme pour sauver son citoyen. Il le brûle. C'est extraordinaire. Il n'y a que les Européens qui sont capables de faire ça. Et ce sont peut-être les seuls qui l'ont fait dans l'histoire. Après, il y a eu les sorcières au XIVe, XVe, XVIe, XVIe siècle, et puis ensuite il y a eu les Assyries, et puis ensuite au XXe siècle, il y a eu, je ne vais pas entrer dans tous les détails, hein. Et puis maintenant, ben, il y a les feux individuels, familiaux, quoi. Il suffit de passer dans les rues le soir, et on voit tous ces bouchers qui brûlent dans les maisons, des flammes bleues partout, parce qu'on rentre comme ça, on rentre épuisé, fatigué, couvert de crachats, des éclats de ce qu'on a ajouté, des injures, épuisé, de fatigue, mort, on tombe devant le poste, comme ça, on éterre, tac, et puis peu à peu, on se régénère, là. On se remet, et le lendemain, on repart d'un meilleur cœur au travail. Et ça, c'est une grande dimension. Mais attendez la suite, parce qu'il y a des gens qui vont dépasser ça, hein. Ah, on les enchaîne, on les a la main. Ouais. Ah, vous dire un peu de Venise. Venise où a été inventé l'opéra en 1607 par Monteverdi. Orfeo. Tout rentre dans l'homme, tout dans un jour sortir. Alors, Monteverdi, il a fait ça à Venise, sa lagune, l'ignace, tout ça. Ça a donné l'idée de l'opéra, il a choisi Orfeo, qui séduisait tout le monde, vous savez, les animaux, les hommes, tout le monde. Et alors, Orfeo, il y a le chanteur qui chante. Alors, il y a une grande différence entre le chanteur de l'opéra et le théâtre, l'acteur. Parce que le chanteur, il chante sa dégorge. Et ça court, ça sort, ça, des grandes eaux. Et l'acteur, lui, le théâtre, il est au milieu des grandes eaux, du grand bouillon, il se demande qu'est-ce qu'il fait là, il fait à se noyer, il a peur et ça fait rire tout le monde. Et c'est la grande différence. Alors, ça sort comme ça. 3, 4, et allez, et alors il y en a qui ont les jumelles qui regardent, les requins, les baleines, les écrevisses, les musaraignes, les souris, les rafles, tout ça, les insectes, ça c'est l'opéra. Venise, et Venise, alors il y en a qui vont recharger leur libido là-bas. Et les jeunes maris, ils vont, c'est bon pour la libido, très bon pour la libido. Et puis après, il y a Vienne, Vienne, Paris. Les capitales du plaisir, on valse, c'est formidable, la valse, c'est... et puis la distinction surtout, la distinction française, même viennoise, quoi. La distinction c'est le champagne, les talons hauts, c'est pour donner l'exemple, par exemple, c'est... je voulais prendre l'exemple de ce que c'est que la distinction dans les langues. Si je prends la langue régionale, je dis « Aquelos montanos que tan altos son ». Ouais, ce ne sont pas très hautes, quand on dit ça, ces montagnes. Et si je dis dans la langue nationale, « Ces montagnes qui sont si hautes », tout de suite, elles s'élèvent. Et si j'emploie la langue internationale, « Those mountains are so high », les rocheuses. Ça, c'est la distinction. Alors, la valse, il faut voir. La valse, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est le même ensemble culturel européen. Et alors, après, on vient de sortir de l'île noire avec leur musique. Il n'y a pas la cohérence que là, nous, c'est une très bonne cohérence. Et puis alors à Vienne, il y a Freud qui danse avec la couronne de Montezuma, 8 kilos, 400 plumes, extraordinaire. Alors Freud, il valse lui aussi. Ça lui fait enfler les pieds. Enfin, surtout, mais ça lui fait enfler. Et c'est là qu'il a trouvé l'Oedipe. L'Oedipe, ça veut dire au pied enflé. Ah oui, et puis. Eh bien, nous sommes tous là, au fond. Je ne sais pas comment, j'ose pas vous dire. Nous sommes tous comme des portes, comme des cochons. Nous sommes là, toujours à foncer, à défoncer, à se défoncer. Nous fouissons, nous retournons la terre, nous cherchons, nous faisons apparaître, je vous dis, nous ferons n'importe tout, nous croisons. Nous sommes les sangliers de la terre, les hardes sauvages, nous sommes. Et ça, on va te prendre des coups. La plateforme, il ne semble pas. Ça arrive, ça fait, puis d'ailleurs, ça se termine la nuit tombe, ça continue, et le jour monte, et ça continue, sans cesse. Et on fait apparaître, enfin, c'est extraordinaire. Et c'est inimaginable. Toutes les directions dans lesquelles nous cherchons, dans tous les sens, comme ça, 10 000 directions, on se sent plus que de la terre, on se sent debout au centre du monde. Est-ce que vous vous sentez au centre du monde, plus que du monde, de la galaxie, et de l'univers? C'est ça que l'Européen doit sentir, se sentir le centre de l'univers. Alors là, il est vraiment un Européen. Hein. Ah, c'est bouleversant de vous dire tout ça. Non, certainement, je vais y aller. Je m'en vais. Enfin, j'ai encore quelque chose à vous dire. Moi, j'ai vu qu'avec ce journal, là, je me suis emparé. Eh bien, c'est au sujet du sexe. Il faut aborder tous les sujets. Alors, pour nous, ça va, maintenant. Ça va. On ne passe pas trop par les choses. Par exemple, le taux de natalité a augmenté en France de telle manière que nous produisons les deux tiers de la population qui est créée chaque année pour l'Europe. Les deux tiers des Européens qui naissent, c'est nous. Donc, on est comme un pays du Sud. On fait des enfants. Pourquoi ? Parce que on le voit. Vous voyez ? Natalité, la France est en bonne santé. C'était ce moment le samedi, ça. Puis c'est un choix sérieux, je ne sais pas, rigolade. Mais s'ils le disent, c'est que c'est. Suppose. Alors, je vous dis donc, écoutez, si vous connaissez les Européens, chacun connaît un Italien, un Espagnol, un Anglais, un Allemand, il faut leur dire de plus se livrer à des jeux sexuels inutiles. Ça ne sert à rien, tout ça. Ça sert à rien. Il faut employer le sexe à bon escient. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas la peine de se perdre dans des turpitudes, des honteuses, des pornographies, le cinéma, la télévision, tout ce qui est, c'est pas sérieux. Transmettez leur message. Il faut que nous redressions la tête et que nous redressions le sexe tous ensemble. Toujours les premiers. C'est ça mon message. Les premiers, toujours. Ouais. Ah, bon, ben, salut. À la prochaine.